d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sûr Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Et ce soir, je suis avec Ludo. Et Claude à la technique. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Et c'est Gilles au micro pour vous servir. Voilà. Donc ce soir, une grosse émission également. Nous parlerons bien sûr des chiffres du chômage. Et surtout, surtout, des 900 000 jeunes chômeurs non indemnisés, non comptabilisés par le Pôle emploi et qui ne cherchent pas d'emploi. Nous parlerons également de la marche des chômeurs, car c'est bientôt la marche des chômeurs en juillet. Et nous parlerons également de l'austérité en Europe et de que faire de l'euro. Bien sûr, l'euro pose un problème aujourd'hui hein, entre les pays du Sud et les pays du Nord. Et aussi de la réforme des retraites, une réforme supplémentaire hein, sur les retraites, encore une, qui ne servira sans doute à rien, puisque les retraites n'en auront certainement jamais hein, pour beaucoup d'entre nous.
Ouais, tel que c'est parti là.
C'est mal parti, voilà. Donc une émission haut en couleur et un petit mot quand même sur Clément qui est donc mort cérébral il n'y a pas longtemps et tapé par des skinheads hein, donc du front des fachos quoi. Voilà.
T'allais dire des skinheads du front de gauche, attention.
Non, du Front National, j'allais dire du Front National. Donc voilà, donc une bonne émission, j'espère. Voilà. Et voilà, donc cette émission reprend. Voilà, donc il y a effectivement aujourd'hui, malheureusement, 900 000 personnes, de jeunes personnes qui ont donc ont quitté l'école très tôt, n'ont pas eu de formation et qui se retrouvent sans emploi, sans être inscrits à l'emploi parce qu'ils n'ont jamais travaillé auparavant. Et donc, ils sont absolument pas indemnisés. Donc, Ludo, toi, tu as regardé un peu les chiffres. Alors, apparemment, c'est 900 000 personnes qui sont considérées.
Alors, en fait, effectivement, c'est une. Il s'agit d'une note du Conseil d'analyse économique et sociale qui est sortie en avril 2013 et qui a été repris par Le Monde de dimanche dernier et donc qui a titré 900 000 jeunes en déshérence. Alors, pourquoi ce titre? D'abord, en fait. C'est quelque chose qu'on connaît ou qu'on s'attendait, c'est-à-dire qu'avec la crise, un certain nombre de jeunes ne rentrent plus sur le marché du travail, c'est-à-dire ne cherchent même plus à y rentrer. Alors évidemment, là, il s'agit de 900 000 jeunes qui, donc de 16 âge légal hein, d'entrée dans le marché du travail.
C'est à quoi,
À 29 ans.
À 29 ans, d'accord.
Donc, oui, ils ont retenu large, mais parce que c'est des gens qui, en fait, sortent sans aucun diplôme. Il faut savoir qu'il y a à peu près 150 000 personnes qui sortent par an sans diplôme, de jeunes par an sans diplôme. Donc, c'est beaucoup.
De l'école.
De l'école, voilà. Mmh. Et qui, c'est ce qu'appellent donc les sociologues, ouais, les nets. Donc, ouais. C'est-à-dire les gens qui ne sont ni en
éducation,
ni en formation. Ouais. Et bon, en réalité, ils sont beaucoup plus dans cette situation. C'est-à-dire qu'ils sont, qu'ils n'ont pas encore d'emploi stable, ils peuvent alterner, ils peuvent avoir fait des petits boulots d'intérim, mais ils n'ont pas de vrai boulot pérenne qui leur a permis de se construire dans le temps. Donc ce qui fait qu'ils sont pour la majorité d'entre eux pas indemnisés et la moitié d'entre eux ne sont pas inscrits à Pôle emploi et la moitié d'entre eux déclarent même selon l'enquête d'emploi, être inactif. Donc, au total, ça fait à peu près 1,9 million de personnes.
Ce qui est énorme.
Donc, c'est énorme. C'est absolument énorme. Et parmi eux, donc, 900 000 sont sans diplôme. Et la moitié des 1,9 million de personnes, donc ça fait à peu près, on tombe sur le même chiffre, ne sont pas inscrits à l'ANPE parce qu'ils ne sont pas indemnisés et déclarent ne plus avoir d'espoir de retrouver du travail à cet âge-là. Alors, il y a deux choses hein, quand même qui expliquent. Bon, c'est vrai que nous, on est une émission, on essaye d'expliquer et on n'a pas de solution miracle, hein, bien sûr. Et donc voilà. Et donc il y a deux choses qui expliquent, c'est que la crise en fait a provoqué un marasme, un chômage des jeunes qui atteint aujourd'hui 25%. Donc c'est énorme hein, parce que quand vous êtes jeune, il faut quand même 25% de gens qui sont en recherche d'emploi. Donc là, 25% parmi la tranche de 16 à moins de 25 ans. Hein. Donc Et donc ça, c'est un effet typique de la crise. Et en plus, c'est... Alors, évidemment, pour des raisons qu'on connaît, en Grèce, en Espagne, en Italie, on a des taux de chômage qui sont dans ces eaux-là, voire plus élevés en Grèce et en Espagne. Bon, mais suite aussi à la crise qu'ont connue ces pays-là. Mais c'est vrai que le chômage est, des jeunes est important en France parce qu'il y a une spécificité française là-dessus. C'est que on est, on fait pas confiance aux jeunes. Les employeurs ne font pas confiance aux jeunes. C'est-à-dire que quand vous avez moins de 25 ans, c'est compliqué de trouver un travail. Vous êtes pas assez mûr, on va dire. Mmh. Vous êtes pas assez dans le bon âge pour qu'on vous fasse confiance et qu'on vous embauche, notamment sur des postes à responsabilité. À moins d'être très diplômé effectivement et d'avoir commencé tôt. Alors en Allemagne par exemple, ils ont effectivement pas moins ce problème puisque ils ont des ce qu'on appelle un circuit scolaire qui est beaucoup plus centré sur l'apprentissage et donc qui permet de rentrer dans l'entreprise beaucoup plus tôt. Mais bon, ça c'est toute une tradition, ça date pas d'hier et ils ont aussi une industrie qui se porte quand même mieux et qui a cette tradition de l'apprentissage parce que l'apprentissage vient de l'industrie quand même.
Une politique industrielle importante effectivement en Allemagne.
Oui, enfin toujours et toujours. Le déclin de l'industrie est moins important que qu'en France hein. Et c'est vrai qu'en France où on n'a pas cette tradition là et aussi parce que notre industrie bon, on l'a un peu bazardé, il faut bien dire ce qui est. On se remet au bout de l'apprentissage et finalement il se passe ce qui se passe pour beaucoup de mesures qu'on prend pour les jeunes, c'est que ces derniers temps, l'apprentissage a aussi beaucoup bénéficié aux diplômés du supérieur. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est pas si étonnant que ça finalement, puisque les diplômés du supérieur ont tendance à effectivement mettre tous les atouts de leur côté pour trouver du travail, et c'est à eux que vont profiter en premier ces mesures-là, et c'est aussi là qu'ils ont plus de chances de recrutement. Alors après, derrière ça, il y a effectivement un problème simplement d'emploi, d'accès à l'emploi. On sait que les emplois qualifiés, aujourd'hui peu qualifiés, ils courent pas non plus les rues, quoi qu'on en dise. Hein. Oui. C'est des emplois qui sont mal payés et qui peuvent être en grande partie à temps partiel. Et là, il y a dans les chiffres du chômage, donc notamment publiés le mois dernier par Pôle Emploi, enfin par la DARES.
La DARES, oui.
Le chômage a encore augmenté, hein, et dans des proportions, assez importantes par rapport on n'est pas du tout dans une spirale descendante, comme on pourrait croire, parce qu'on se demande jusqu'où ça va s'arrêter, quoi. Et un des motifs principaux de l'augmentation du chômage, c'est la fin des CDD. Et c'est pas du tout le licenciement économique qui joue de façon très marginale dans l'augmentation du chômage. Et évidemment, c'est évidemment les gens qui rentrent sur le marché qui constitue la cohorte de chômeurs, donc les jeunes, et puis à l'autre bout, les seniors, ceux qui en sortent. Et le fait que la cause principale soit la rupture de CDD, ça indique en fait ce dont on s'aperçoit tous, et notamment avec cette crise-là, c'est que, un, c'est l'accès à l'emploi qui est apparemment le plus compliqué pour les jeunes, et deux, une fois que vous êtes en emploi, disons que le CDI a cette version protecteur, c'est que sauf
même si
accident
partiel,
majeur,
même s'il est partiel le CDI hein, pour le coup.
Non, je parle de CDI, je parle de gens qui sont installés en fait dans
l'emploi. Installés en emploi.
Visiblement,
oui.
C'est pour ces personnes-là, sauf accident majeur, grosso modo. Enfin, en tout cas, dans les causes de chômage, ils restent dans cette situation. Ce qui fait dire à des économistes libéraux que la France est une société duale, et c'est-à-dire qu'elle fait payer par la précarité à ses jeunes les protections qu'elle accorde à ses plus âgés, enfin ou à ses les intermédiaires. Donc ça, je sais pas, on peut en discuter. Ça c'est une vision qui est toute libérale, qui consisterait à dire qu'il n'y a pas de mobilité dans le marché du travail. Mais on pourrait aussi répondre qu'il y a tout simplement un problème d'emploi. d'emploi disponible, hein, parce que quel type se prend précarisant les CDI, quel type d'emploi aussi proposer.
Alors tu disais que les employeurs ne faisaient pas confiance aux jeunes, mais ils font pas confiance non plus aux seniors. À partir de 45 ans, effectivement, on n'est plus, on peut plus être sur le marché du travail a priori. Donc c'est-à-dire qu'on peut travailler que 20 ans de sa vie, alors que l'âge du travail est repoussé à 62 ans. On en parlera tout à l'heure sur les retraites. Hein. Mm. Donc ça veut dire que finalement, est-ce que c'est l'austérité en fait, c'est les choses qui sont à queue quoi.
Non mais alors, 45 ans, donc peut-être. Alors encore une fois, on a ce problème français, c'est que 45 ans, non, si t'es encore en emploi, il est pas dit que tu sois plus employable dans ton emploi.
Mais si t'es pas en emploi, justement.
Mais justement, c'est ça, voilà. C'est qu'il faut pas perdre ton emploi. Donc les protections, elles sont justifiées dans la mesure où, tu vas avoir du mal à retrouver un emploi. Alors maintenant, on peut, alors après, il y a ce côté donc typiquement français qui veut qu'on embauche, on n'embauche pas des personnes âgées, on ne compte plus sur des personnes âgées. En fait, on a des entreprises qui sont très conservatrices là-dessus. J'imagine que bon, c'est peut-être un peu différent dans d'autres pays. Mais quand on parle du taux d'activité des seniors, donc c'est-à-dire des seniors qui travaillent, je dis seniors, donc c'est à partir de 50 ans, jusqu'à... Il faut savoir qu'en Allemagne ou qu'en Angleterre, effectivement, alors le taux d'activité des seniors est beaucoup plus élevé, mais il est beaucoup plus élevé parfois jusqu'à 75 ans, ou jusqu'à 70 ans, en tout cas à plus de 60 ans, et que les seniors qui travaillent sont des seniors qui travaillent pour combler leur retraite, et qu'ils le font grâce à des emplois qui sont exonérés de cotisations, de petits boulots, évidemment précaires, payés une misère, et voilà, qui sont des travails non qualifiés. Donc.
Alors, il y a une différence, parce que tu parlais que ces jeunes n'ont pas d'emploi, certes, mais ils n'ont pas de travail non plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de métier, parce que la terminologie administrative,
ils n'ont pas de formation,
c'est le métier en fait. Hein. Oui. Comme ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas d'emploi. Mm. Donc c'est un peu, c'est vraiment une situation qui est d'une déshérence absolue. Voilà, c'est le chat qui se mord la queue. Ils sont dans une déshérence totale. Alors qu'est-ce qu'ils font de leur journée ces jeunes parce qu'en fait, bon, ils sont pas payés non plus pour aller pour l'emploi, donc ils ont aucun revenu quoi.
Ils vivent sur le dos de la famille, sur le dos de leur famille, qui elle-même peut parfois être en situation de précarité. Alors c'est vrai qu'on n'a pas dit, on n'a rien dit sur le portrait de ces jeunes, mais c'est évidemment et sans surprise si vous êtes jeune, plutôt issu de l'immigration,
et habitant à la banlieue,
exactement, habitant à la périphérie des villes. Et qu'en plus vous êtes en échec scolaire, bah là vous cumulez trois handicaps qui vont faire de vous quelqu'un qui ne trouvera pas de travail. Et d'ailleurs il a noté que c'est-à-dire que moins vous travaillez dans un premier temps, et plus vous aurez peut-être du mal à plus votre parcours professionnel risque d'être haché par la suite. Bon, ça c'est des statistiques de l'OCDE. Oui, tout ce qu'ils le disent. Oui, parce que là, tout ce qu'on dit là est basé sur les statistiques de l'OCDE, donc j'imagine, ont bien une base nationale. Bon, enfin, bon,
certainement,
la cuisine de l'OCDE.
Ah, oui.
Et donc, effectivement, vous êtes donc le fait, comme on l'a dit, hein, de ne pas avoir de diplôme, d'être issu de l'immigration et d'être dans une et d'être issu aussi parfois de ménages qui sont eux-mêmes en chômage en fait. Hein. Ça peut jouer aussi dans le facteur, dans la non prise en compte des études, de la réussite scolaire. Il y a peut-être déjà des problèmes familiaux. Donc on a effectivement des jeunes qui vivent sur le dos de leur famille, qui elles-mêmes peuvent déjà vivre grâce à des aides diverses et variées, et qui sont des familles qui sont déjà au niveau de la survie, quoi. Hein, de la survie, je veux dire,
oui,
aujourd'hui, dans certains quartiers populaires, de logements sociaux, donc tous ces braves gens qui profitent des logements sociaux, et ben ces braves gens ont parfois à peine de quoi payer le loyer, ou juste à peine de quoi payer le loyer aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que pour le reste, pour tous les postes restants, donc vacances, j'en parle évidemment pas, mais même le poste alimentaire, ça représente une, c'est de la survie, quoi, c'est de la survie. Voilà, et ces jeunes, ont bien intégré aussi cette chose-là, c'est que ils ont pas le bon âge. Donc ils attendent le moment où, parce que le problème, si vous pouvez ne pas avoir de diplôme. Et on peut vous dire que c'est mal, mais si vous côtoyez donc quelqu'un de votre même quartier qui a un BTS, on va dire, en électro,
mais ça vous encourage à faire une formation?
Pas du tout,
non,
pas du tout. Si ce jeune homme qui est en BTS est lui-même, j'ai eu BTS, mais qui est en électrotechnique, enfin des choses qui sont quand même, si par ce temps de crise cette personne-là est elle-même au chômage,
oui.
Donc, oui. Bah, ça joue dans le.
Il n'y a pas d'exemplarité, quoi. C'est ça que t'as. Il fait pas.
Oui, non. Puis il y a surtout un désabusement, quoi. On comprend bien que c'est le parcours du combattant pour tout le monde. Oui. Donc, bah oui, il y a cette tendance à se repli, et à surtout à avoir intégré, en fait, le fait qu'il y a une espèce de fatalité à être dans cette situation, quoi. Donc effectivement, si vous voulez, à 18 ans, ça peut paraître pas forcément dramatique, ça le sera plus à 25. Voilà. Et alors, j'ajoute une chose, c'est que c'est vrai qu'il y a certains boulots que les jeunes sont prêts à faire un temps, mais qu'ils ne veulent plus faire. Donc, je prends un exemple de l'intérim. L'intérim aujourd'hui, comme on l'a dit, hein, ça débouche peu sur pas beaucoup sur des CDI. Non, c'est la première. Ouais. C'est là qu'il y a un ajustement. Bon, c'est des fins de CDD. Si vous êtes pas qualifié, que vous rentrez dans l'intérim et que vous faites donc manœuvre en l'occurrence, et puis que votre sort ne s'améliore pas au bout de 3, 4, 5, 6 missions. Évidemment, il y a une espèce d'abandon. Et donc, il y a certains jeunes qui, effectivement, ne veulent plus faire des travaux que faisaient leurs parents, sachant que les 10 parents eux-mêmes sont parfois au chômage par manque de qualification. À un moment donné, se retrouvent au chômage par manque de qualification. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue.
C'est ça. Très bien. On va écouter une petite chanson. On reprend la parole par la suite. Merci.
Et l'ami, prête-moi main forte, à deux poussons la lourde porte.
Ne désespère pas, le jour viendra. L'ami, ne désespère pas.
Oui, c'était Jean-Roger Cossimon, Les Cœurs Purs. D'ailleurs, j'en profite en 2 secondes pour dédier l'ensemble de cette émission et les 4 chansons qui y seront consacrées à Clément, qui à 19 ans a trouvé la mort, une mort cérébrale à cause de 3 skinheads qui ont frappé sur lui lâchement.
Une mort cérébrale, il est mort.
Oui, enfin, il est mort. Enfin, il a commencé par une mort cérébrale et puis maintenant, il est décédé. Donc j'en profite pour notre peine aussi. Je souhaite à toute sa famille toutes mes condoléances à sa famille, à ses amis. Donc il faut absolument dissoudre tous les mouvements d'extrême droite. C'est un impératif absolu. Voilà.
Je vais dire ce que tout le monde a dit, hein, mais oui. On a fait le parallèle ces derniers temps régulièrement. Les médias l'ont fait entre l'extrême droite et l'extrême gauche. On a la preuve que on a une extrême droite qui est violente. Et que l'extrême gauche a des méthodes qui restent quand même pacifiques.
Absolument. Puis ça n'a aucun rapport, de toute façon. C'est opposé. C'est comme si on.
Non, mais bien sûr, mais voilà, c'est pas la même chose, comme m'a dit un éditorialiste de France Inter, c'est pas la même chose d'extrême droite et d'extrême gauche.
Tout à fait. Alors très bien, alors on va reprendre cette émission, on va parler maintenant un peu des luttes, un peu la façon dont on peut lutter contre l'austérité, peut-être que justement les chômeurs, depuis maintenant une vingtaine d'années, organise donc des marches, les marches des chômeurs, et c'est un moment important de réunification de pour pouvoir se compter déjà et pour pouvoir revendiquer un certain nombre de choses qui nous semblent à nous, en tout cas ici dans cette émission, extrêmement importantes et qui pourraient justement apporter des progrès, non pas à la science, pour c'est une bêtise, mais des progrès un petit peu à la situation catastrophique dans laquelle nous vivons. Voilà. Alors. Justement, les revendications de ces marches sont en principe liées au fait qu'il y a une demande un fonds social d'urgence pour tous les gens qui ne peuvent pas se nourrir et se vêtir, se loger. Donc on demande effectivement un fonds social qui permettrait de débloquer de l'argent et permettre à chaque chômeur précaire de pouvoir survivre avec un minimum requis. Hein, voilà. Évidemment, un arrêt des radiations et un moratoire sur les indus, hein, tout à fait. Un déclenchement automatique d'une allocation de solidarité à SFSOSA pour tous les fins de droit, parce qu'actuellement, les fins de droit se retrouvent sans un sou. Un rétablissement de l'allocation équivalent à retraite à ER dans son intégralité. Peut-être qu'il serait bon aussi de mettre en place un revenu pour les jeunes sans emploi dès la sortie du système scolaire, dès 16 ans ou 17 ans, quand on sort de l'école. Ça me paraît en fait être du bon sens, hein, tout ça. Hein. Une augmentation substantielle des minima afin qu'aucun revenu ne soit inférieur au seuil de pauvreté. qui, je crois, lui doit 950 euros, le seuil de pauvreté, aujourd'hui, ou 900
oui, c'est
euros.
Ça, c'est ça,
950 euros. Un rétablissement de la dispense de recherche d'emploi, la DRE, pour les chômeurs de chômeuses âgées. Des mesures concernant le logement, bien sûr, l'arrêt des expulsions, la baisse des loyers, la construction des logements sociaux, toutes sortes de choses qui, effectivement, permettraient à chacun de d'être bien vivant sur cette planète et de pouvoir pouvoir vivre correctement, en tout cas, survivre correctement, a priori. L'abaissement des loyers, nous appelons également à la construction des logements sociaux. Enfin, voilà. Donc, ces marches partent donc de Montpellier, le 15 juin et arriveront donc à Paris le 3 juillet. Donc je donne quelques adresses quand même, enfin quelques dates. Oui, Claude, tu veux me parler, non? Oui, il y a plusieurs points de départ, effectivement, des marches qui partent de l'Est, un peu des quatre points cardinaux, Est, Ouest, Nord-Sud, hein, évidemment. Mais celle, je vous donne quand même celle du 15 juin, donc l'accueil des chômeurs et précaires réunionnais à Montpellier. Ensuite, vers le 20 juin, c'est Carcassonne. Le 22 juin, c'est à Colomiers-Toulouse. 25 juin, Cahors. Donc, si vous êtes sur ce chemin-là, n'oubliez pas de rejoindre les marcheurs. C'est vous permettra éventuellement de... C'est aussi festif. Hein. On rencontre les élus, on fait des propositions, il y a des tables rondes. C'est quand même... c'est pas du tout anodin. C'est quand même important. Je me souviens que les premières marches avaient pas mal marché. C'est même, il y avait pas mal de monde sur en train de marcher. Aujourd'hui, peut-être que c'est en baisse parce qu'on a du mal quand même à fédérer les chômeurs. Il n'y a pas de syndicat de chômeurs. Enfin, si, il y a un syndicat de chômeurs, bien sûr, mais il y a des... qu'est-ce que je dis ? Il y a AC, la PES, MNCP...
Ce
ne
sont pas des syndicats. Il y a un seul syndicat, c'est le syndicat CGT.
Ce sont des collectifs et il y a le CGT chômeurs qui est un syndicat.
Et de toute façon, on a du mal, que pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, il y a du mal à mobiliser. Voilà. Et à la limite, les mobilisations aujourd'hui devraient être européennes. Pour peu que...
Alors, pour vous donner un petit ordre du jour, pour vous ayez une idée de ce qui va se dire dans les conférences sociales de juin et de juillet, une participation effective des mouvements des chômeurs et précaires aux travaux de conférences sociales et de toutes les instances où se décide leur sort. Ça, c'est un truc, c'est vrai que au niveau de tout ce qui est, les syndicats qui parlent, du point de vue paritaire, parlent du problème du chômage. Il n'y a pas de chômeurs qui sont effectivement partie prenante dans ce système. C'est-à-dire que c'est que les syndicats qui sont là. Donc, ce serait bien que les chômeurs, en tant que collectif, puissent avoir une voix.
Soit représentés. Dans les négociations.
Pôle emploi.
Et puis qu'effectivement, ils soient associés à toutes les négociations paritaires. Évidemment, bon, disons qu'au moins qu'ils soient représentés là où ils sont les premiers concernés.
Oui, tout à fait. Alors, il y a également ce qui serait bien une conférence nationale. On appelle donc à une conférence nationale pour refonder le plan stratégique 2015 de Pôle emploi, qui est devenu un petit peu obsolète. C'est vrai qu'il y a pas. On a vu que Pôle emploi était depuis le départ. Je crois que tu as un document là-dessus.
Oui, justement, c'est un communiqué des syndicats qui nous disent un peu alors, on sait que la fusion, ça a été quand même très compliqué, que l'augmentation du chômage est arrivée au pire moment. Enfin, que la crise, pardon. Enfin, que la fusion plutôt est arrivée au pire moment, puisque le chômage a augmenté et que le nombre d'agents était légèrement insuffisant pour gérer tous ces demandeurs d'emploi et notamment pour leur trouver du travail. Mais là, bon, on est tous d'accord pour dire que c'était pas vraiment de leur faute. La faute des agents de Pôle emploi, puisque du travail, il faut qu'il y en ait. Je rappelle que la proportion emploi-travail est de 1, je sais pas, il y avait quoi, 200 à 300 000 offres d'emploi pour 3 millions. Donc, vous voyez, la proportion, ça fait 1 sur 10. Emploi visible, en tout cas. Et dans ce contexte, on a appris que l'assurance chômage préférait accentuer l'accompagnement des chômeurs par rapport à l'indemnisation. Alors on pourrait se dire c'est très bien, sauf que je vous rappelle que le dernier suicide qui a eu lieu devant Pôle emploi, est lié à un problème d'indemnisation. C'est-à-dire qu'on n'avait pas très bien expliqué à l'allocataire que puisqu'il avait eu un trop perçu, c'est-à-dire il avait un trop perçu parce que il avait omis de déclarer une centaine d'heures. Alors s'il avait déclaré sa centaine d'heures, on lui aurait amoindri ses allocations, mais il n'aurait bénéficié plus longtemps. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'on a oublié de lui préciser que puisqu'il avait eu un trop perçu, les 100 heures qu'il n'avait pas déclarées ne seraient pas comptabilisées dans sa prochaine indemnisation. Alors c'était quelqu'un qui travaillait à temps partiel, qui était en intérim. Quand je dis temps partiel, c'est-à-dire qu'il était en intérim, qu'il avait des bouts de mission et qu'il collectionnait les bouts d'heures pour arriver à une indemnisation pour survivre. Hein. En plus, donc, il était c'est un étranger d'origine, donc c'était quand même assez compliqué. C'était le parcours du combattant. Et donc, au moment de bénéficier, de renouveler son indemnisation, bon, on lui a dit Nakash, t'as droit à rien puisque il te manque une centaine d'heures. Voilà. Et à la suite de ça, il s'est immolé. Or, en fait, il y a une raison aussi à ça, c'est que l'assurance chômage aujourd'hui privilégie. Donc ça, c'est les syndicats de Pôle emploi Rhône-Alpes qui nous le disent, privilégie l'embauche d'agents pour le suivi des chômeurs et non pas pour leur indemnisation. Ce qui veut dire que il y a des dysfonctionnements dans le calcul de l'indemnisation. Et ça, c'est un résultat direct hein, de la fusion de Pôle emploi et l'UNEDIC, c'est-à-dire que l'UNEDIC avait son propre quota de personnes qui calculaient ses indemnités, et Pôle emploi avait un volume beaucoup plus important de personnes qui étaient chargées de l'accompagnement des chômeurs. Avec l'augmentation du chômage, les agents sont débordés, ils ont des dossiers à ne plus... des portefeuilles, ils appellent ça, de personnes à ne plus savoir qu'en faire. Ils ont effectivement des demandes sur ce besoin-là, mais l'indemnisation, ça reste un secteur, enfin ça reste fondamental pour pouvoir rechercher un emploi dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avoir un minimum vital qui vous permet quand même d'aller à droite et à gauche pour pouvoir retrouver du travail. Donc voilà, donc là Pôle emploi déclare donc le tract des syndicats de Pôle emploi. Pôle emploi n'assure plus le renouvellement du personnel dédié au métier de l'indemnisation, ni le maintien de l'expertise réglementaire, créant ainsi une dégradation du service sans précédent. Voilà. Pour exemple, en octobre 2012, a été annoncé en Rhône-Alpes un taux de qualité de 84%, le plus bas de France. Donc le taux de qualité, ben, c'est leur taux de réussite, on a envie de dire, de calcul sur indemnisation. Et évidemment, comme les règles sont quand même très compliquées, il y a de quoi s'y perdre. Il fait des indus une simple question de recouvrement pour tout le personnel sans qualification nécessaire pour en vérifier le bien fondé. Donc c'est ce qui voilà, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs en fait. Parfois c'est les agents de Pôle emploi qui se trompent au détriment des chômeurs indemnisés.
Alors pour retourner sur Canal Marche et sur les marches des chômeurs, quand même on a quand même quelques idées, surtout les collectifs et syndicats des chômeurs ont quand même quelques idées. Contre effectivement l'austérité, hein, donc effectivement une réduction du temps de travail à 32 heures qui dégagerait un certain nombre d'heures pour permettre à d'autres d'avoir un emploi. Ça me paraît essentiel et surtout une indemnisation universelle pour toutes les formes de chômage et également des formations choisies, qualifiées et rémunérées, qualifiantes et rémunérées pour tous. Je sais que ça paraît impossible pour le MEDEF, mais pour nous, ça paraît possible. Il faut simplement faire des choix politiques et...
Ça revient à la MED, cette indemnisation de base qui permettrait, en fait, vu les circonstances, c'est-à-dire vu le manque d'emploi manifeste, qui permettrait par gros temps, on va dire, donc en l'occurrence en temps de crise, aux chômeurs ou aux jeunes qui débarquent sur le marché du chômage, de passer la crise en attendant de voir des auspices meilleurs. Hein, je vous rappelle que pour bénéficier du RSA jeune, il faut avoir travaillé un nombre conséquent d'heures pour en profiter. Et en fait, ça profite à presque personne, pas par ces temps-là. Donc, je veux dire, c'est une idée qui est à la mode, pas seulement dans les organisations d'extrême gauche.
Alors justement, si vous voulez avoir plus de renseignements, je finis là-dessus, en tout cas sur ce sujet, plus de renseignements sur les marches des chômeurs, vous avez la possibilité d'aller sur Internet, c'est pour ceux qui ont un ordinateur, ou vous appelez. Donc vous pouvez taper sur Google ou ailleurs, MNCP, APES, AC, DAL, SNU Pôle emploi, FSU, Sud emploi, Solidaire, etc. Et vous aurez toutes les informations nécessaires, j'espère, il n'y a pas de souci. On écoute une petite chanson, on reprend la parole, merci.
À peine a-t-on le temps de vivre, on se retrouve cendre et givre. Adieu. Et pourtant j'aurais tant à faire avant que les mains, tant à faire avant que les mains de la terre me ferment à jamais les yeux.
Et Eh oui, superbe chanson pour toi Clément et pour tous les militants jeunes et moins jeunes qui se battent pour un meilleur monde. Voilà, c'est une émission Mode d'emploi, fréquence, Paris Pluriel 106.3 FM. Mission des chômeurs précaires. Nous parlons malheureusement des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont dans la précarité. Nous aurions aimé, en faisant cette émission dès le départ, faire ça que 1 ou 2 mois, voire 6 mois, 1 an. Mais ça fait 10 ans que ça dure et je crois que ça durera encore peut-être 18 ans si on a encore le temps de vivre avant de fermer les yeux, comme dit la chanson. Très bien, on reprend cette émission. C'était un petit clin d'œil. On va parler maintenant, il y a quelque chose qui peut fâcher. C'est les recommandations que l'Europe a faites à François Hollande sur ces 3%. Dis-moi, Ludo, un petit peu, comment ça se passe cette histoire abracadabrante?
Alors, il paraît, on dit, que la Commission européenne fait tous les 2 ans, désormais, des recommandations à tous les pays européens. Enfin, en fait, elle liste les pays où ça va pas, et pour leur faire des recommandations dans tous les domaines. C'est-à-dire, ça va du déficit public à la restructuration des banques pour l'Espagne, au marché du travail pour la France, pour l'Espagne et pour l'Italie, à la formation professionnelle, voilà. Voire même à un excès d'austérité pour l'Angleterre. Donc ça, c'est bien, pour une fois. Bon, et voilà. Et donc, quand on lit, en fait, ce catalogue de... Parce que le catalogue des recommandations qui fait 10 pages, on est quand même pris d'un doute. C'est qu'on se demande pourquoi, à quoi ça sert d'élire des représentants démocratiques si, à la fin, il y a des super fonctionnaires qui viennent leur pondre une feuille de route et leur dire « Ouais, c'est pas mal, mais peut mieux faire. » En plus des recommandations dont on a envie de dire à la lecture, juste sur ce qui concerne la France, qu'elles vont quand même un peu dans tous les sens. Je m'explique. C'est pas simple. Bon. Donc, la France a obtenu, donc soi-disant aussi, un délai de 2 ans pour réduire son déficit.
Je crois, c'est ça, oui.
Voilà. Mais évidemment, elle l'a pas obtenu gracieusement, et donc il y a un certain nombre de recommandations qui ont suivi. Alors, sur la trajectoire de réduction des déficits, il me semble, et je ne suis pas économiste, que presque tous les économistes, y compris les Américains, sont presque d'accord pour dire que on ne peut pas à la fois réduire les déficits publics et rechercher de la croissance. Et c'est-à-dire que l'effort de réduction des déficits publics et la pression fiscale qui va avec amène forcément un coût en termes de croissance et donc génère une baisse de revenus fiscales, donc qui contribue à accroître le déficit. Ou disons, en limiter la réduction, de l'augmentation du déficit. Parce qu'effectivement, le déficit continue à augmenter. Donc à un moment donné, ça c'est le premier point. C'est-à-dire que dans certains cas, l'effort d'ajustement structurel, ce qu'il faut bien appeler de l'ajustement structurel, dans le cas par exemple de la Grèce et de l'Espagne, est tellement important que de toute façon, le déficit, lui, continue à s'accroître dans des proportions qui font abandonner tout espoir concernant la Grèce, notamment de l'avoir un jour se plier aux critères que voudrait lui imposer la Commission européenne. Alors, officiellement, c'est 3%. Je sais plus où ils en sont maintenant. C'est l'exemple extrême. Mais après tout, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, tous ces pays-là pourraient tomber dedans. Ils sont le Portugal est déjà dedans. Mais voilà, si vous voulez, c'est cette politique qui a été choisie, et puis il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Et donc le corollaire inévitable, c'est l'augmentation du chômage. Donc là, on est en plein dedans, parce qu'on peut pas à la fois faire de l'austérité et mener une politique de plein emploi et de croissance, ça on le sait. Donc en fait, à la limite, certains disent que finalement, tout ça est un complot néolibéral. Tout ça est une expérimentation néolibérale. C'est-à-dire que c'est en période de crise qu'on peut appliquer les recettes qu'on aurait rêvé d'appliquer en temps de croissance, mais qu'on n'avait pas les moyens en fait d'appliquer. Hein. Donc là, la crise, et notamment la crise financière, enfin la crise de l'euro, tombe à point pour imposer ses recommandations de libéralisation à tout va. Des secteurs marchands et des secteurs enfin secteur marchand, pardon, et non marchand, et des professions, enfin des services notamment, et des professions non réglementées. Donc la Commission européenne, dans une de ses recommandations, enjoint à la France, de prendre des mesures pour simplifier l'autorisation des ouvertures de commerce. Donc ça, il faut lire donc ouverture le dimanche, supprimer l'interdiction de la vente à perte, mettre fin aux tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Alors, elle précise quand même pour les clients autres que les ménages, donc pour épargner hein, les consommateurs, dans le secteur ferroviaire, à ouvrir le transport intérieur de passagers à la concurrence. Alors elle précise bien le transport intérieur de passagers, parce que pour ce qui concerne les infrastructures, ouvrir à la concurrence les infrastructures, ça paraît un peu compliqué. Et donc, bref, de mettre en place des politiques, d'aller au bout de politiques qui, a priori, n'ont pas forcément porté ses fruits dans d'autres pays. Donc, je rappelle que la privatisation en Angleterre, des chemins de fer en Angleterre, est une catastrophe. Alors, évidemment, et on parle peut-être pas de la même privatisation, mais c'est quand même une catastrophe. La privatisation des services, alors notamment dans la téléphonie, voilà, ils en parlent pas, c'est le cas, mais en Angleterre, ça s'est traduit par une augmentation. Donc la concurrence, en fait, la concurrence
de la
facture téléphonique, c'est-à-dire que vous avez le choix entre tant de pourcents d'augmentation et tant de pourcents d'augmentation. C'est ce qui pourrait arriver pour l'électricité si demain on libéralisait. Et de toute façon, ça sera un coût supplémentaire pour les entreprises. Hein, si... Sachant que le phénomène de concurrence, enfin, se traduit aussi par des pics qui semblent des hausses énergétiques qui sont parfois conjoncturelles. Et qui paraissent pas que justifiés, c'est-à-dire qu'on a un amalgame d'opérateurs qui jouent aussi en fonction de l'offre et de la demande et qui spéculent là-dessus et qui s'engraissent là-dessus. Bon, alors, sans on va rentrer dans ce débat là, vous voyez. Et puis au milieu de ça, on a une avalanche de quatre. Alors on a des choses qui sont plus emmerdantes et tout ça en fait est noyé. Je le dis là parce que comme on a le texte sous les yeux, est noyé dans une espèce de catalogue de bonnes intentions. Qui paraît effectivement de très bonne intention, mais dont on devine quand même que dans le cadre d'austérité dans lequel on est, ça reste des bonnes intentions.
Alors, donne-nous l'exemple d'une recommandation, par exemple.
Alors, à prendre des mesures. Je veux dire la prose, hein, à prendre des mesures pour améliorer l'environnement des entreprises et à développer la capacité d'innovation et d'exportation des entreprises, notamment des PME et des entreprises de taille intermédiaire, et en particulier à lancer l'initiative annoncée de simplification du cadre réglementaire. Alors, je veux dire, aujourd'hui, les PME ont un problème de crédit, d'accès au crédit, mais non, c'est un problème réglementaire, selon la Commission. Hein. On a des problèmes d'exportation des entreprises, c'est-à-dire qu'en fait, on se fait bouffer par la concurrence, et en partie allemande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réduire la capacité d'innovation et d'exportation d'entreprises ?
C'est pas dire grand-chose, a priori.
Ben, si, ça veut dire, à l'arrivée, si, ah et bon. D'ailleurs, il le dit, ça veut dire baisser le coût du travail.
Ah oui, voilà, dans ce sens-là, d'accord. Voilà. J'ai bien compris, d'accord.
Et donc, non mais bon, là, c'est l'exemple à la limite, dit comme ça, vous voyez, c'est l'exemple de choses qui paraissent tout à fait, une terminologie, ça paraît plein d'intentions, encore une fois, je le dis. Améliorer les conditions propice à l'innovation, en renforçant les transferts de technologies et l'exploitation commerciale des résultats de la recherche, notamment par une réorientation des pôles de compétitivité. Bon, voilà, vous voyez, c'est tout ce jargon technique dont on a quand même un peu de mal à... par contre, où il y a des choses, hein, poursuivre les efforts de simplification du système fiscal.
C'est raté.
Tout en garantissant la continuité de la règle fiscale dans le temps. Alors, par exemple, au passage des tours, il y a aussi un chapitre sur le marché du travail. Donc le marché du travail, ma foi, peut-être que et là, quand je parle d'expérimentation libérale, c'est qu'à la limite, le SMIG est selon la Commission européenne et selon l'OCDE, est clairement un frein à l'emploi en France, l'augmentation du SMIG. Et alors, il faut bien se souvenir que on sort d'une période avec François Fillon, oui, dont le slogan était travailler plus pour gagner plus, et que tout le monde a mal compris. Alors c'est vrai, il y a eu ces histoires de défiscalisation des heures supplémentaires, mais travailler plus pour gagner plus, c'était à prendre dans le sens littéral. J'entends par là que le SMIG n'a pas été augmenté pendant les 4 ans de la mandature de François Fillon, parce que c'est lui qui fixait les machins. Oui, et donc, du coup, il y a eu une perte de pouvoir d'achat du fait de l'inflation. Mais, donc, toute augmentation, jusqu'à ce que l'on arrive, toute augmentation du SMIG Il n'en est pas question auprès de la Commission. C'est une augmentation du coût du travail, même quand il est corrigé sur l'inflation, hein, visiblement. Et c'est une source d'inflation, selon elle, visiblement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on disait que ça va provoquer de l'inflation. Aujourd'hui, on dit que ça provoque une augmentation du coût du travail. Et en résumé, mais en fait, il faudrait qu'il n'y ait pas de SMIC en France. Voilà. Il faudrait voilà.
En tout cas, il n'y a pas les recommandations du genre l'imposition d'une taxe Tobin européenne.
Mais si, exactement. Et bien, alors j'ai entendu directive Bolkestein dans ma tête. Il y a la recommandation de Bolkestein presque.
Ah,
on pourrait dire ça. Mais on pourrait dire ça, la déréglementation des services.
Oui, c'est ça.
Que ça. Là, il y a les pointes.
Libre et non foncé.
Non, évidemment, on n'entend pas parler de taxe Tobin. Ah, mais c'est des recommandations.
Réduction du temps du travail non plus. Travailler moins pour vivre mieux. Non.
Bon, écoute, là, non. Bon, là, quand même, ils sont rêveurs, mais pas à ce point-là.
D'accord.
Non, mais par contre, il y a un truc intéressant. Tiens, en matière de marché du travail, Bruxelles critique sa trop grande segmentation. Bon, ok. Ça veut dire on peut pas travailler d'un truc à un autre, hein, évidemment. En France, on pointe le chômage massif des jeunes. Ça, c'est vrai. On l'a vu, là. Ou le faible niveau d'activité des travailleurs âgés. Alors, c'est vrai, mais en même temps, forcer les entreprises à embaucher des travailleurs âgés, oui, mais il faut savoir, hein, on est libéral ou on l'est pas. Je veux dire, en tout cas, ça retombe sur la tête des gens, des dits travailleurs âgés, hein, parce que le même temps, on leur sucre l'indemnisation, parce que derrière, il y a ça. Insiste pour lancer en urgence une réforme de l'assurance chômage avec les partenaires sociaux. En urgence, vous entendez bien ce terme. On ne sait pas si c'est lié au déficit, très probablement. Pour assurer qu'elle rend attractif le retour au travail. Donc derrière ça, il faut entendre un retour à la dégressivité.
Oui.
D'accord, des allocations. C'est-à-dire à une baisse progressive des allocations suivant la durée. Alors, je voudrais rappeler à ces messieurs de la Commission européenne que la dégressivité existait entre 1993 et 1997 et elle n'a pas empêché en quoi que ce soit l'augmentation massive du chômage en France à un taux record qu'on vient de dépasser. Alors voilà. Le crédit d'impôt, sans surprise, ils trouvent ça bien, même si finalement, c'est une répercussion sur la TVA, donc ça va accentuer l'effet récessif. Oui, bien sûr. Ça, on est au courant. Voilà. Voilà,
si je comprends bien, ces recommandations vont dans le bon sens pour les néolibéraux que nous ne sommes pas, nous, mais pour eux, ça va dans le bon sens.
Ah, mais François Hollande est d'accord avec.
Et la nationalisation.
Non, François Hollande est tout à fait d'accord avec elle.
Pourtant, avec Merkel, il avait quand même imposé plus ou moins il avait imposé le fait qu'effectivement, pour un volet croissance, c'est-à-dire effectivement.
Un tout petit peu.
C'était
vraiment très, très limité. C'est vrai, hein, pour l'emploi des jeunes, c'est des effets d'annonce. Ça concerne.
D'accord.
Enfin, on va débloquer des milliards. Mais François Hollande était assez d'accord avec ce plan pour la simple et bonne raison qu'un de ses conseillers, a fait la synthèse du rapport de Jacques Attali. Libérer la croissance, sous Sarkozy.
D'accord.
Voilà. Il s'appelle Macron. Voilà. Tout ça va dans le bon sens, en fait.
Ouais.
Bien sûr. Alors, dans le même ordre d'idée, hein, parce que finalement, il n'y a pas que la France qui est concernée par ces recommandations. Il y a aussi tous les pays, hein, qui sont pas bons. Donc, par exemple, la Grèce. Alors, la Grèce, en fait, la Commission européenne admet plus ou moins qu'elle est dépassée par la situation.
Mais vous voulez sortir de l'euro, finalement, elle sort plus de l'euro, alors.
Ben non. Bizarrement non. Mais par contre, elle peut rester pauvre. Hein. Ça, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Parce que finalement, après les X plans d'austérité, il s'agit surtout de continuer à faire ses efforts de réduction de déficit. Voilà. Pas de possibilité de planche à billets, de financement. À la limite, on se dit qu'on aurait recours à l'inflation, ça ferait moins de dégâts, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est pareil. Alors pour l'Espagne, je rappelle que l'Espagne avant la crise était presque le champion des CDD, le champion des bas salaires. Bon, allez, peut-être avec la Grèce. Et puis surtout des jeunes qui restaient chez eux jusqu'à un âge avancé. Et donc voilà. Donc Donc, bah, toutes ces réformes-là, s'il y a quand même un poids positif, c'est que finalement, en dehors de son endettement stratosphérique, hein, donc elle parle de l'Angleterre, voilà, l'Angleterre devrait quand même faire beaucoup moins d'austérité et elle devrait améliorer la capacité et la qualité de ses infrastructures dans le secteur des transports et des énergies. Bon, voilà. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, quand on a des super experts qui viennent nous donner en fait ce cadre de réforme, eh ben on se demande à la fin effectivement pourquoi on vote et est-ce qu'on peut voter pour une autre politique. Voilà, et donc le débat effectivement mais de la sortie de l'euro prend tout son sens avec des recommandations comme ça, de la sortie ou du chantage à la sortie ou
tout à fait.
Voilà, en tout cas.
On écoute une petite chanson, la dernière, et ensuite on reprend la parole. Merci.
On veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail.
Voilà, vous êtes. On veut pas du travail, mais pour ceux qui n'en ont pas, ils aimeraient bien en avoir un vrai. Hein, voilà, c'était un peu le clin d'œil de cette chanson. Donc, on reprend cette émission. C'est Fréquence Pas Pluriel, 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Je suis avec Ludo. Salut Ludo.
Bonsoir.
À nouveau. Voilà, cette émission tire à sa fin. Nous allons quand même parler un petit peu. Alors, juste avant de partir, de reprendre sur les retraites au niveau de l'Europe, puisque tu voulais en parler un petit peu.
Oui, c'est parce qu'on avait oublié de.
Oui, on avait oublié d'en parler.
C'est d'actu, donc vous avez.
Oui, mais
que...
juste, je vais juste avant, excuse-moi de te couper. Je vais juste donner l'adresse quand même de pour tous les problèmes pour Canalma, pour le problème de la marche des chômeurs, pardon. C'est le site d'AC hein, qu'il faut surtout aller. Faut surtout aller sur le site d'AC. AC-chômage.org, voilà, ac-chômage.org, allez-y pour avoir toutes les informations sur la marche des chômeurs, ça va de soi. Donc nous on reprend sur l'Europe. Alors,
oui, donc vous avez vu que ça y est, donc notre Premier ministre est parti, donc enfin a annoncé sa réforme des retraites notamment grâce aux fonctionnaires, enfin sur, pour les fonctionnaires en fait, hein, et donc évidemment un sondage d'opinion est sorti tout de suite après pour dire que ah oui, c'était absolument lamentable cette inégalité entre gens du privé donc et fonctionnaires, ce qui est vrai hein, puisque depuis la réforme de Balladur, pour quelqu'un du secteur privé, on prendra son salaire de référence sera calculé sur les 25 meilleures années. Donc par les temps qui courent, c'est un peu chaud et ça privilégie ceux qui sont évidemment qui sont en emploi et qui ont des carrières longues et surtout ascendantes. Ce que vous voulez dire, c'est quand même c'est que ça faisait partie effectivement des recommandations de Bruxelles que j'ai oublié tout à l'heure Bruxelles eux envisageaient carrément de s'attaquer une nouvelle fois aux retraites du privé avec des mesures. Alors évidemment on a l'habitude d'allonger la durée de cotisation, on l'a déjà fait plusieurs fois, alors ça commence à être lourd, il faudrait trouver autre chose. Alors finalement il fallait prendre des mesures radicales du type désindexer les retraites, alors apparemment par rapport à l'inflation, voire baisser directement le niveau des pensions, tout ça au nom de la lutte contre le déficit public. Et je rappelle que la Commission va même jusqu'à recommander je crois que c'est à l'Espagne d'augmenter encore public, d'augmenter encore la durée de départ à la retraite, de l'allonger. Elle est de 67 ans en Espagne.
Oh la vache.
Voilà. Donc voilà le type de recommandations qu'on a qui viennent de la Commission européenne. Il n'a pas fallu 3 jours pour que Jean-Marc Ayrault parle d'une nouvelle réforme des retraites. Alors je vous renvoie sur ce sujet au super dossier sur les retraites d'Alternatives économiques du mois de juin 2013, qui vient de sortir, et qui est vachement bien foutu parce que vous avez un autre regard, puisqu'eux ils ont regardé les projections du COR, donc le Conseil conseils d'orientation sur la retraite et de l'indemnisation des retraites en France par rapport aux pays européens. Et comme quoi, grosso modo, ils nous disent que les différentes réformes ont quand même commencé à porter sacrément leurs effets, dans un sens positif de réduction de déficit, mais aussi dans un sens négatif, qui sera probablement un retour de la pauvreté des seniors dans un futur. Et ils prennent effectivement, ils comparent avec l'Allemagne ou l'Angleterre, où en Allemagne, c'est pas très rose pour les retraités. Voilà. Et vive le modèle social allemand.
Merci Ludo. Donc vous pouvez bien sûr, vous allez pouvoir écouter cette émission mercredi de 7 à 8 heures sur cette même antenne. Nous avons également un site, c'est www.mode-d-emploi.net si vous voulez télécharger cette émission pour l'avoir chez vous. Évidemment, nous nous retrouvons dans 15 jours en émission dans 3 semaines.
Oui, dans 15 jours.
Ah oui, le 21. Ah oui, le 21, c'est une émission spéciale, et puis le 21, c'est une émission spéciale, et le 14 aussi. Non, le 21, c'est une émission spéciale. Et voilà, c'est ça. Et qui sera en public, hein, si mes souvenirs sont bons.
Donc, qui sera en public.
Qui sera en public, voilà. Merci beaucoup. Cette émission se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci Ludo de l'avoir fait avec moi. Merci à Claude pour la technique. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous et toutes. Ciao.
Bonsoir.
Vivre pour des idées. Pour des idées, l'idée est excellente, si bonne que partout on la voit combattue. Il n'est pas d'idée juste qui soit trop encombrante, sauf pour tous ceux qui veulent que les gens n'en aient plus. Tous les prêcheurs de